Donc, voyez-vous, les 10 commandements sont sous peine de mort. Et le premier commandement, le deuxième, le troisième commandement. Dieu dit, si vous ne respectez pas le Shabbat, vous serez condamné à mort, lapidé et retranché du peuple. Alors heureusement qu'on est dans le Nouveau Testament, hein, parce qu'imaginez que j'ai le rôle de faire mourir tous les baptisés qui n'iraient pas à la messe le dimanche. Ben moi je serais encabané par César. Mais voyez-vous, lorsque des gens disent les intégrismes, en fait ils veulent nous mettre sur le dos la dureté de la loi religieuse. Mais si nous on veut trop plaire au monde, oui bien sûr il faut renoncer à la peine de mort hein, quand même hein, pour les 10 commandements, hein, on est d'accord. Mais ça reste un péché quand même de pas sanctifier le jour du Seigneur. Et donc les prêtres, ils peuvent toujours être les plus lâches possibles. Hein. On leur demande pas de lapider ceux qui respectent pas le dimanche, mais on leur demande de dire aux gens de venir prier le dimanche. Quand vous avez des prêtres, voire des évêques qui vont vous dire « Oh mais du moment que vous allez à la messe une fois par mois, c'est très bien », ben non, c'est sanctifier le jour du Seigneur. Alors là, vous avez donc les intégristes et les gros méchants qui vous disent que c'est péché, et puis les super gentils qui vous disent « vous pouvez faire ce que vous voulez ». Mais on a fait tellement ce qu'on veut, ben que, ben nos, alors qu'on avait 5 messes, on n'en a plus que 2. À Passy, il y avait 10 messes. Maintenant, il y en a 6, vous me direz, c'est pas mal. Oui, mais elles sont à moitié remplies par rapport aux 10 anciennes messes où tout le monde allait... le dimanche matin à 5h ou 6h du matin pour aller chasser, s'amuser ensuite l'après-midi du dimanche. Mais ils avaient assisté à leur messe. Enfin, donc Aaron est tout désolé avec son veau d'or et Moïse fait écraser la statue en or, la mélange à la cendre des bûchers, de tout ça, et la fait boire, à ceux qui, aux survivants, enfin ils sont nombreux, hein. Là il nous est dit qu'il y a eu 3000 Hébreux qui ont été tués par les Lévites. Voilà. Donc c'est costaud, hein, le veau d'or est toujours debout et dans sa gloire dérisoire, et dans sa gloire dérisoire, le monstre abject insulte aux cieux. Et le veau d'or. Eh bien voyez-vous, les Hébreux ivres et fatigués de ces 3 mois dans le désert, adore l'or, la prospérité. Et les Lévites vengent l'honneur de Dieu. Et vous verrez que donc, Dieu va prendre le sacerdoce de Aaron, le frère de Moïse, et de la famille, de la tribu de Lévi. Parce que parmi eux, il y en avait qui étaient zélés, n'est-ce pas, pour l'honneur du Seigneur. Alors nous faisons un anachronisme extraordinaire à comparer les prêtres de 2016 et la dureté des mœurs d'il y a 3400 ans. Mais il n'empêche que on comprend mieux pourquoi, lorsque vous quittez la religion musulmane, vous êtes condamné à mort dans certains pays. Parce que vous allez à l'encontre du premier commandement. Donc eux, ils en sont à l'Ancien Testament. Vous voyez ? Ils sont à 3400 ans en arrière. C'est dur. Mais voyez-vous, quand on connaît l'histoire sainte, on comprend pourquoi, en Pakistan, lorsqu'un musulman abandonne l'islam, il est condamné à mort. C'est tout. Au Pakistan, ou en Afghanistan. Au Pakistan, ça doit être une peine extrêmement lourde. C'est en Afghanistan que c'est la peine de mort, actuellement. C'est encore la mort au Pakistan.
Une jeune pakistanaise qui a été condamnée à mort.
Voilà. Donc. Mais voyez-vous, de bien connaître notre religion, c'est de savoir comment Dieu a posé des étapes. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que Dieu disait « Celui qui vient pas prier au Shabbat devant la tente du coffre en bois doré avec deux anges représentés de chaque côté du coffre, étendant leurs ailes au-dessus du coffre. Moïse remonte dans la montagne, redescend avec deux tables qui sont placées dans ce coffret qu'on appelle l'Arche d'Alliance. Et il fait construire la tente qui recouvre l'Arche, une grande tente avec des peaux de moutons teintes en rouge, en marron, et là où se trouve le coffre recouvert d'or avec les deux anges qui étendent leurs ailes au-dessus du coffre, il n'y a que Moïse et Aaron qui peuvent entrer dans le Saint des Saints et qui peuvent prier à cet endroit-là. Personne d'autre ne peut y rentrer. Et personne d'autre ne peut toucher l'Arche d'Alliance. Et là, Dieu dit à Moïse, tu vas sanctifier Aaron, et Aaron va devenir le prêtre. Il va devenir l'intercesseur entre moi et le peuple. Il va devenir prêtre, pontife. Il va faire le pont entre moi et les hommes. Je ne veux que lui et ses fils. Ses cousins et ses neveux seront les serviteurs du tabernacle de l'Alliance. Mais ceux qui pourront offrir les animaux et les sacrifices ne seront que les prêtres. Et Aaron, le grand prêtre, seul pourra prendre le sang du sacrifice pour une fois par an le projeter sur l'Arche d'Alliance. Car le sang versé, c'est la mort, et cette mort, elle vous est évitée par l'animal, mais normalement, vous êtes tellement méchant et tellement pécheur que je devrais vous tuer. Et vous tuerez les femmes adultères, et vous tuerez ceux qui respectent pas le Shabbat. Et uniquement les femmes ? Non, il y a les hommes aussi. Donc les hommes qui ne priaient pas le Shabbat pouvaient être tués, n'est-ce pas ? Alors, c'est quand même raide tout ça. Et pourquoi Dieu fait ça ? Mais parce que c'est pire ailleurs. Chez les Cananéens, ils jettent les bébés dans des fours en forme de statues de bronze, creuse, incandescente, avec des foyers à l'intérieur, des cheminées, avec des têtes de démons, des bras articulés, des bouches qui s'ouvrent où le bébé est avalé par la cheminée, des enfants qui sont égorgés, c'est une boucherie. D'ailleurs, Dieu dit, ils ont abreuvé cette terre du sang de leurs fils et de leurs filles, et c'est pour ça que je vous la donnerai. Dieu est très sévère sur les 10 commandements parce que les peuples qui les entourent sont sans morale et d'une très grande cruauté. Eh bien, encore maintenant, voyez-vous, c'est difficile à accepter. L'abbé Pierre, mais d'autres personnes moins libérales, considéraient que ces passages avaient été inventés par des auteurs juifs pour se faire une culture, mais que jamais Dieu n'avait demandé ces peines de mort. Eh bien, ce n'est pas assumer la pédagogie divine. Dieu avait été très sévère à l'époque pour empêcher son peuple d'être infanticide, pour empêcher son peuple de faire des sacrifices humains. J'ai beau le répéter à certaines personnes, on dit « Mais non, il n'y a pas de fou, non !» Non, Jésus ne peut pas demander ça, ce n'est pas possible. Et parce que Jésus, il existe déjà, non pas dans ça avec sa nature humaine, mais avec le Père et le Saint-Esprit, il est déjà là, il est déjà aux affaires. Hein. Donc, quand Jésus dit dans le Nouveau Testament, il craque un peu, oui, il dit « Celui qui est méchant avec des enfants, ben, il mériterait qu'on lui mette une meule de moulin autour du cou et qu'on le jette à la mer. » Alors, faisons ça, vous voyez. Prenez un pédophile, vous voyez. Comment dire, vous avez 80% des pédophiles qui sont des pères de famille et des oncles. Vous avez 0,05% de prêtres criminels. Vous avez 1 à 3% de professions de l'enfance qui sont inquiétées pour abus sexuels sur enfants. 1 à 3%, 0,05% de prêtres. Ben les films sur les pédophiles, ce sera toujours sur des prêtres. Pourquoi ? On veut détruire l'Église catholique. Mais bon, vous savez, on résistera. Même le pape François, qui est toujours inquiet à bien maîtriser les médias, à un moment a dit « Mais attendez, quand même, c'est infinitésimal le nombre de prêtres criminels. » Eh bien, voyez-vous, vous prenez un pédophile, mais là, maintenant, là, en 2016, on va au bord de la Seine, on fait sortir un pédophile d'une prison, il dit « Mais pourquoi ?» Mais c'est pour une leçon de catéchisme. Ouais. On lui met une corde autour du cou et une meule de 500 kilos. Et on le balance dans la Seine. Eh bien, je peux vous assurer que c'est une scène assez horrible et qui va couler très très vite. En fait, on va le voir plonger derrière la meule. Il va même pas, vous savez, la meule va rentrer dans l'eau et comme un caillou, et lui va suivre derrière et boum, va disparaître d'un coup. Eh bien, c'est Jésus, doux et humble de cœur, qui nous donne cet exemple. Le gentil Jésus. Mais c'est ce même gentil Jésus qui dit à son peuple, le premier qui ne va pas à la messe le dimanche, vous le lapidez. Alors, ce n'est pas comme ça. Le premier qui ne fait pas Shabbat, vous le lapidez. Donc, tenez-vous heureux d'être dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui me diraient, mais vous êtes complètement manichéen, vous opposez l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas du tout. Dieu d'amour, par amour, est sévère. Il y a 3400 ans. C'est de l'amour. Comme une institutrice qui met des mauvaises notes à ses élèves qui ne font pas d'efforts pour des dictées, eh bien, c'est elle qui corrige. C'est elle qui fait 3 dictées par semaine, au lieu d'en faire une par mois où tout le monde a 20. Elle s'embête à faire 3 dictées par semaine. Elle est sévère, elle a un chignon, elle est méchante, elle la regarde méchant. N'empêche que ses enfants, à la fin de l'année, ils vont faire beaucoup moins de fautes d'orthographe. Et qui aime les enfants, sinon l'institutrice au chignon, au regard méchant? Parce qu'en fait, elle se paye 3 corrections par semaine. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est par amour de l'orthographe, c'est pas par amour des enfants. Oui, mais elle fait progresser ses enfants. Laissez une institutrice à chignon aimer les enfants. Mais laissez le bon Dieu aimer son peuple, même de manière sévère. Alors, le tabernacle est fait. Oh, que c'est important! Tabernacle de peau, avec des piliers, avec des bases en argent, mais des piliers en bois. Des tentures et un autel dont la structure peut être soulevée et portée par des bœufs, mais c'était lourd, hein. Une structure qui devait être défaite à chaque fois que le bon Dieu déplaçait la nuée. Et alors à ce moment là vous aviez les Lévites qui prenaient des trompettes et qui sonnaient, et tout le monde devait faire ses bagages, défaire ses tentes et tout. C'était impressionnant. Et le bon Dieu les baladait comme ça dans le désert. Là, Dieu lui demande de faire un rectangle avec des étoffes précieuses, enfin des peaux teintes. Il avait 10 mètres de long sur 3 mètres de large et 3 mètres de haut. Un voile ou rideau le divisait en deux parties. Dans la première se trouvait le chandelier d'or, un chandelier d'or à 7 branches, 7 lumières. La table de pain des propositions. On devait faire 12 pains, 12 miches de pain chaque jour, qui signifiait les 12 tribus d'Israël soumises au bon Dieu. Et l'autel des parfums, un petit autel avec des charbons où on faisait brûler de la résine et des plantes aromatiques. La seconde partie était le Saint des Saints, où était l'Arche d'Alliance avec les deux anges représentés. Et d'ailleurs, c'est là que saint Paul remarque, et que les catholiques font remarquer à ceux qui ne veulent pas d'image, d'une part, quand Jésus, le Verbe, s'est fait chair, il a fait une image de lui, et donc on peut représenter Dieu. La fin de l'interdiction des images, c'est la nuit de Noël, le petit bébé. C'est une image de Dieu, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Ah oui, mais on voit un petit humain. Eh oui, mais enfin, il est habité par la divinité. Et en ce qui concerne les anges, ceux qui sont contre toute image devraient quand même au moins faire des images d'anges, puisque dans l'Ancien Testament, il y avait deux anges qui étaient représentés, deux chérubins. En avant du tabernacle se trouvait un bassin en bronze où on plongeait les animaux qu'on allait sacrifier pour les laver de la poussière, du sable, de leur saleté. Et l'autel des holocaustes. Le tout était renfermé dans un espace clos appelé le parvis, où le peuple pouvait s'assembler. Mais pas tous, mais une partie pouvait entrer. L'Arche d'Alliance était un coffre de bois précieux, entièrement revêtu d'or. Elle avait 75 cm de long. Petit. Deux chérubins d'or. Un chérubin, les chérubins sont des anges. On les représente avec trois paires d'ailes. Une en l'air, une, comment dire, en bas, et deux ailes sur les côtés. Six ailes. On ne voit que leur... quand on les représente, mais enfin les anges n'ont pas de matière, mais quand on les représente, on signifie leur profonde volonté par trois paires d'ailes. Deux chérubins d'or qui se regardaient l'un l'autre la couvraient de leurs ailes étendues. Sa partie supérieure portait le nom de propitiatoire. Pourquoi ? Propice, Dieu qui exauçait les prières de Moïse quand il allait devant l'Arche d'Alliance. C'est là que Dieu se manifestait à Moïse ou au grand prêtre qui le consultait. L'Arche d'Alliance ne renferma d'abord que les tables de la loi. Puis on y mit aussi une mesure de manne, de cette nourriture miraculeuse. Toute la tribu de Lévi fut consacrée au service de l'autel. Les ministres du culte divin étaient de trois sortes, le grand prêtre, les prêtres et les lévites. Le grand prêtre, c'était le patriarche de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Les prêtres, c'était les enfants les descendants d'Aaron, en ligne directe. Et les lévites, c'était toutes les lignes collatérales de la tribu de Lévi. Par ordre de Dieu, Moïse consacra son frère Aaron comme grand prêtre et les enfants d'Aaron comme prêtres pour offrir les sacrifices. Les Lévites furent chargés d'assister les prêtres dans les fonctions de leur ministère et de pourvoir au service du tabernacle que les Hébreux transportaient avec eux dans leur marche. Outre le sabbat, qui revenait tous les samedis, et qui devait perpétuer le souvenir de la création, les Israélites avaient encore dans l'année quatre fêtes principales. La Pâque, l'anniversaire du départ d'Égypte, et la manducation, c'est-à-dire le fait de manger l'agneau pascal, établi en mémoire de la sortie d'Égypte. La Pentecôte, qui était l'anniversaire de l'arrivée au pied du mont Sinaï, 50 jours plus tard, et de la voix entendue par le peuple, avec les 10 commandements. Pentecôte, c'est 50 jours. La fête des tabernacles ou des tentes, mais ça, ce n'était pas une fête qu'ils fêtaient, eux, là. Ça sera plus tard qu'ils fêtent cette fête, pardon, pour la pauvreté de mon vocabulaire, qu'ils célèbrent cette fête. C'est parce que la fête des tabernacles, c'est le rappel d'avoir été 40 ans dans le désert. Enfin, la fête des expiations, le seul jour de l'année où il est permis au grand prêtre d'entrer dans le sanctuaire pour offrir des parfums et le sang des victimes. La Pâque se célébrait le 14e jour du mois de mars, enfin du mois de Nisan, je crois. La fête des tabernacles arrivait 7 mois après. Ces deux fêtes duraient 7 jours, aussi bien que celle de la Pentecôte. C'est les octaves. Si nous avons des octaves, 8 jours, c'est en raison des fêtes hébraïques. Le peuple d'Israël apprit bientôt avec quelle sévérité Dieu punirait les transgresseurs de sa loi. Un Israélite blasphéma un jour le nom du Seigneur. On le conduisit aussitôt à Moïse, qui, après avoir consulté, Dieu ordonna de mener le blasphémateur hors du camp et de le lapider. Deuxième commandement. Voilà. Un autre Israélite fut traité de même pour avoir ramassé du bois dans le désert un jour de sabbat. Nadab et Abiou, enfants d'Aaron, furent dévorés par des flammes qui sortirent de l'autel, parce que contrairement à la loi, ils avaient mis dans leur encensoir un feu qui ne venait pas de l'autel, au lieu de celui qui brûlait perpétuellement sur l'autel des holocaustes. Ouh, c'est une loi rituelle, mais ils sont brûlés vifs. Et brûlés vifs par un miracle. Un autre, bien plus tard, voyez-vous, du temps de David, vous avez un brave, hébreu, qui n'était pas de la tribu de Lévi, ou qui n'était pas prêtre, je crois, enfin. L'Arche d'Alliance était portée sur une charrette avec des bœufs. Elle avait été prise en temps de guerre par les Philistins et elle revenait aux Hébreux. Et à un moment donné, la charrette tangue et vous avez un des Hébreux qui chantait, qui priait avec tout le monde, qui pose la main sur l'arche de peur que l'arche verse et tombe par terre. Eh bien, il meurt sur le coup, le pauvre. Eh bien, pourquoi ? Il est interdit de toucher l'arche. Et là, David, qui voit le bonhomme tomber raide mort, dit « On arrête la fête et on laisse l'arche près du village à côté. On arrête la procession vers Jérusalem. » Ça rigole pas, hein. C'est impressionnant. Bon, je vais cesser de vous faire peur. On a 5 minutes, on va essayer de tomber sur quelque chose de plus agréable, on va voir. La législation que Moïse a donnée de la part de Dieu au peuple d'Israël renferme dans son ensemble deux genres de préceptes. Les uns étaient définitifs et destinés à tous les hommes. Les autres sont temporaires et propres à la nation juive. Du premier genre sont les dogmes religieux comme l'unité de Dieu, sa providence, la soumission à ses ordres, la foi au Messie promis. Les lois morales qui se résument dans le décalogue. Aucune des religions anciennes, qui sont l'œuvre des hommes, ne s'était élevée à une telle hauteur de doctrine et de morale. Lois temporaires. Les lois cérémonielles, dont le rôle est d'avoir été la figure et la préparation du culte chrétien et du grand sacrifice de la nouvelle loi, comme le sacrifice de l'agneau pascal, comme le fait aussi de ne pas manger de porc, d'avoir des interdits alimentaires, Pourquoi ? Et pour pas avoir des relations avec les peuples homicides. Eh oui. Les autres peuples mangeaient du porc, mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Les Hébreux, ça leur est interdit sous peine de mort. Donc vous comprenez que les repas conviviaux avec d'autres religions étaient difficiles. Des lois politiques, militaires et civiles appropriées à la vocation du peuple juif. On va terminer sur quelque chose d'un peu raide quand même, c'est dommage. Alors attendez, bon. Toutes les lois sont données. Vous avez le tabernacle. Et vous avez la nuée. À chaque fois que Moïse entre dans le Saint des Saints, vous avez la colonne, voyez, qui se met juste au-dessus du propitiatoire. Et la colonne reste au-dessus de l'Arche d'Alliance en hauteur. Et quand Moïse entre pour parler à Dieu, la colonne de nuée descend et englobe en quelque sorte la tente de l'Arche d'Alliance. Impressionnant, hein ? Et vous avez les Hébreux qui voient ça pendant 40 ans. Qui voient Moïse, à chaque fois qu'il entre dans le tabernacle, voir la nuée descendre parce que Dieu parle avec Moïse. Et donc là, on va pouvoir s'arrêter sur quelque chose de moins cruel de ce que je vais vous dire après pour la prochaine fois. La condamnation du peuple juif a tourné 40 ans dans le désert. Donc on va terminer sur une note positive. Donc Moïse, à force de parler avec Dieu, eh bien, la lumière qui venait de cette colonne de nuages, la lumière divine, alors qu'elle était indirecte, hein, Moïse ne voyait pas Dieu dans sa nature, hein. Son visage devenait lumineux, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on ne pouvait plus regarder Moïse en face, tellement son visage était lumineux. À force de parler avec Dieu, le visage de Moïse avait un rejaillissement de la beauté, de la lumière et de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, quand les gens étaient, on avait assez d'être aveuglés à chaque fois qu'ils parlaient à Moïse, il lui avait conseillé, et lui-même avait fini par se mettre un voile sur la tête. Imaginez, il avait de temps en temps un voile sur la tête, et même la lumière transparaissait, donc ça faisait comme, vous voyez, c'est... Alors ça peut vous faire sourire, mais à nouveau les exégètes vont dire « Ah ben non, ça c'est pas vrai, c'est enjolivé, comment voulez-vous qu'il ait une tête en lampe de lampadaire ?» Eh bien, on vous ennuie, on vous embête, chers exégètes, voyez-vous, lorsque, de la même façon, un jour j'ai lu dans « Tite !» hein, l'analyse d'un prêtre qui disait pour la transfiguration était-ce un songe ? Voyez. Vous avez Pierre, Jacques et Jean, Jésus les prend, ils vont sur le mont Tabor et là sa gloire divine rejaillit, redonde sur son corps humain et il devient brillant comme le soleil. Et là, Pierre tombe au sol, les autres tombent au sol et sont impressionnés par la gloire du Christ. Et là apparaissent Élie, dont je vous parlerai plus tard, et Moïse, qui parle avec Jésus de sa mort prochaine. Et Pierre entend la conversation et dira ensuite ce qu'il a entendu après la résurrection. Et donc c'est comme ça que il y a un des quatre évangélistes qui dit « Et il parlait de sa passion, avec Moïse et Élie. » Impressionnant. La loi, Moïse et les prophètes. Eh bien, ce prêtre disait « Oh, c'est quand même un peu gros quand même, que Jésus devienne une lampe et que Moïse apparaisse et que Élie apparaisse. » Donc ça devait être un rêve de Pierre. Et comme ils sont prostrés, quand l'apparition s'arrête, Jésus touche Pierre et lui se lève Et le prêtre interprète en disant « Et Jésus réveilla Pierre. » C'est pas sympathique de nier les miracles. Parce qu'à ce moment-là, il y a un miracle qui doit quand même, à un moment donné, où ils doivent acquiescer, c'est la résurrection de Jésus. Enfin, s'ils ne croient pas que Jésus, le visage tuméfié, avec 140 coups de fouet, est crucifié et avec un coup de lance dans le côté, ne revient pas vivant, en pleine forme, en ayant gardé uniquement les 5 plaies et le coup de lance, mais en ayant guéri son visage tuméfié, les pointes d'épines et les coups de fouet, à ce moment-là, ben ça veut dire que c'est de la culture et qu'ils n'ont pas la foi. Ah, mais nous sommes chrétiens parce que c'est la religion la plus sympathique. Ben oui, mais enfin, on croit, on n'y croit pas, mais c'est pas une question culturelle, l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui nous engage personnellement et en tant que peuple, à terme, et qui permettrait justement aux Saoudiens d'avoir des mœurs plus douces. Oui. Donc, ce visage de Moïse, je termine par cette considération de saint Paul qui dit « Regardez, l'Ancien Testament était quand même beau et glorieux, comme le visage de Moïse, qui était lumineux. Mais alors, si l'Ancien Testament était quand même beau, malgré sa force, n'est-ce pas ça, qu'est-ce que ne sera pas la nouvelle alliance? L'ancienne alliance a été donnée par Dieu et ses anges sur le mont Sinaï, et celle donnée par son Fils, elle sera excellente. Voyez-vous, c'est comme les chansons, hein, le maître du festin qui goûte le vin que Jésus vient de créer et qui dit: d'habitude, on donne le meilleur vin au début et ensuite un vin moins bon quand les papilles ne peuvent plus distinguer la qualité d'un vin à la fin du repas. Mais toi, et il s'adresse aux mariés, parce que ce couple signifie le nouvel Adam et la nouvelle Ève, les noces du Fils de Dieu avec l'humanité. Hein? Alors le pauvre, il était là parce que c'est un fait historique aussi. Donc imaginez, il est là avec son épouse et vous avez le maître du festin qui lui dit: tu donnes à la fin le meilleur vin au lieu de l'habitude humaine calculatrice, tu donnes le meilleur vin à la fin. Et lui, il n'a pas dû comprendre. Mais pour nous, voyez, c'est une louange adressée à Dieu. Une louange adressée au fils du roi, au fils du propriétaire de la vigne, dont on célèbre le mariage et les noces. Et donc, Jésus donne le meilleur vin. Après avoir donné le vin de la force de Dieu, de la colère de Dieu, contre le péché, contre la cruauté, contre l'hypocrisie, il donne l'agneau de Dieu, il donne le cœur sacré de Jésus. Mais il faut savoir, parce que je ne peux pas m'empêcher de terminer sur quelque chose de sévère et de méchant, que à la fin des temps, l'agneau de Dieu, il va péter un câble et il va être en colère. Et il va ultimement punir les méchants, mais vraiment les méchants. Vous voyez, ceux qui font souffrir les innocents depuis des décennies. Et bien là, à un moment donné, Dieu dira stop, et il arrêtera même l'histoire humaine à cause de ça. Et là, ça sera l'Apocalypse et la résurrection, et une vie nouvelle viendra, parce que le fait de pouvoir être malade, handicapé, vieillir et mourir, Dieu ne le veut pas, et ça cessera à la résurrection des morts, lorsqu'il arrêtera l'histoire humaine. Et nous ressusciterons avec des corps glorieux, qui seront des corps sans maladie, sans vieillesse. Oui. Alors peut-être que certains d'entre vous qui auront beaucoup aimé l'état vers 60-70 ans, qui se sont trouvés beaux et sages, demanderont à avoir une apparence de 70 ans dans la résurrection, je ne sais pas s'ils auront la permission, parce que Dieu veut le corps humain dans sa plénitude. Et voilà, bonne nouvelle, évangile, un Dieu qui se fait homme et qui aime l'humanité, âme et corps.